Club de la presse, quatrième rendez-vous de la semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé par Michel Tomega et Jiro Akucha, chargés respectivement de la mise en onde et la mise en ligne de ce programme. Programme accessible également sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoula Bassar, Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapaon et en ligne sur Ibn Radio et Radio Le Bénin. Le panel de ce jour est composé de Michel Tchadja du journal Ouara Les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour Fouseni, bonjour à l'invité, bonjour à Ambroise et bonjour à nos amis derrière la belle vitrée. Et puis surtout, bonjour à Canal FM.
D'accord, vous l'avez annoncé, Ambroise Kondjo du journal des Guardianes. De Guardian. Voilà, bonjour Ambroise.
Oui, bonjour Fouseni, bonjour Michel, bonjour les auditrices et auditeurs qui sont à l'écoute. On est là aujourd'hui pour le Gabon, c'est bien. Et moi, j'annonce les couleurs. Mais je voudrais profiter. Tu sais, c'est deux jumeaux. Iafor et Ali Bongo. C'est les deux.
Nous allons parler
quand ça a commencé ici, on est allé là-bas.
Nous allons seulement parler du Gabon.
Donc, on va y arriver. Et je voudrais tout de suite.
Un coup de gueule.
Oui. La pluie s'annonce. Et moi, je voudrais inviter les habitants des quartiers de Lomé. Les maires, les agents aux maires, tout ça, de veiller à ce que nos rues adjacentes des chaussées ou des routes bitumées soient entretenues. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de jeter des ordures en désordre sur la voie qu'eux-mêmes ils empruntent. C'est inadmissible, c'est de l'incivisme notoire. Et je crois que, même si pour moi la décentralisation a bien démarré et qui balbutie jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut toutefois sauver les meubles en renforçant les communes, en donnant une certaine autonomie de fonctionnement aux mairies, en subventionnant, en débloquant des fonds pour les mairies, pour leur propre fonctionnement, pour leur auto-fonctionnement. Et j'en invite aux citoyens, parce qu'il appartient à eux-mêmes d'abord de gérer leur quartier. Même 100 ans, aucun État, aucun gouvernement ne viendra dans votre quartier pour bitumer votre route. 300 ans, vous n'allez pas trouver ça. Donc, si vous n'arrangez pas, vous n'aménagez pas votre quartier, vous allez en souffrir.
D'accord. Merci pour ce coup de gueule. Nous attendons Magloire Teko Kenvi du journal Flambeau des démocrates. Moi-même, je me nomme Fouseni Saïbou. Nous démarrons dans un instant. C'est la région des savanes qui ouvre l'émission de ce jour. Dans Ouara Les Vainqueurs, on lit réhabilitation des formations sanitaires dans les savanes. Ce sont des formations sanitaires concernées. Alors, Michel Tchadja, nous apprenons à travers Ouara Les Vainqueurs que les travaux de réhabilitation de ces 60 formations sanitaires lancées en novembre 2022 ont presque terminé.
Oui, en tout cas, c'est l'information que nous avons. Et vous savez que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a eu un programme piloté par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations donc de cette région. Et au menu donc des projets à exécuter pour le bonheur des populations de cette localité, il y a les formations sanitaires à réhabiliter. Et nous apprenons qu'il y a un peu plus d'une soixantaine donc, de formations sanitaires qui ont été réhabilitées et qui vont maintenant être opérationnelles dans leur grande plénitude pour dispenser les soins de santé aux populations qui en ont besoin pour la réalisation finale donc de la politique de l'accès universel aux soins prônés par le gouvernement depuis un certain nombre d'années. Donc disons que c'est une bonne chose pour ces populations. Et vous n'êtes pas sans savoir que à côté de ces formations sanitaires, il y a aussi les additions d'eau dont nous avons parlé il y a de cela quelques semaines. Il y a aussi les équipements nécessaires pour les écoles de la localité pour permettre aux enseignants de pouvoir bien dispenser les cours. Donc disons que c'est un paquet de projets que le gouvernement est en train de dérouler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, pour les tourner, pour les aider à tourner le dos
à la précarité,
et faire bloc avec le gouvernement contre le terrorisme qui sévit depuis quelques années dans ce coin de notre pays.
D'accord, les travaux sont presque terminés. Ambras Kondjo, depuis un moment, on constate que les efforts du gouvernement sont concentrés dans cette région, dans plusieurs secteurs. La réhabilitation de ces 60 formations sanitaires en est la preuve.
Oui, je crois que c'est une bonne chose si les autorités s'évertuent à honorer leur engagement après les élections, donner des infrastructures socio-collectives aux citoyens qui d'ailleurs en ont besoin en ces moments de changement climatique, en ces moments de troubles sociaux et de misère. Je crois que c'est une bonne chose. Il va falloir ce qui est important à faire, c'est de savoir qui trouver à gérer ou à mettre en œuvre ces ouvrages là. Pour que, après un an, deux ans, on ne dise pas que ce qu'on a fait hier, deux jours après, c'est gâté. Je crois que c'est ça. Il faut aussi un contrôle dans la gestion de la chose publique. Donc, Michel le disait la dernière fois par rapport à cette affaire d'école privée. Et donc, je dis aussi quand je prends par exemple le cas, quand les financements viennent, je crois qu'il faut faire des choses urgentes qui sont des priorités. Tout ce qui est prioritaire. Parce qu'il y a, quand je prends par exemple, on parle d'infrastructure, on parle de tout ça. Il y a des choses qu'il faut faire dénouer de toute histoire politique. Quand je prends la route de Michintové-Covier, il le dit chaque fois ici. Cette route-là, peut-être certains ne le savent pas, devait être bitumée depuis les années 70-80. Quand Oufo Boigny était venu à Michintové là-bas, nous on a appris, c'est pas c'est des anecdotes ou c'est une légende ou c'est une vérité. Il était là avec le chef Kweli qui était dans le canton. Ils sont même deux fois de suite. Et donc, c'était clair que cette route-là devait être bitumée au temps de Gérard et Adema. Le feu et Adema. Mais ça n'a pas été fait. Je crois que Fong Yassingbé, le président, ne va quand même pas. Les efforts qu'il est en train de faire dans ce sens, des infrastructures routières, il va vouloir. Parce qu'il y a tellement du monde là-bas. Lomé s'est déplacé vers l'autre côté. Bitumer la route-là. Qui quitte les Bassito jusqu'à aller, pensant par Michintové, à Covier, jusqu'à Vlé, continuant vers Bolou et Davier. Donc, c'est juste un exemple que je donne.
D'accord.
Donc, les infrastructures socio-collectives. Au-delà de ça, je voudrais ajouter, au niveau des communes, que le gouvernement aide les communes à avoir des infrastructures sportives dans les quartiers. Le basket, le handball. On trouve une réserve, par exemple, chez moi, là-bas, à Kato ou à Baguida. On trouve juste une réserve de combien de mètres carrés ? Soit c'est le basket. Et le handball. On peut même créer une piscine communale. Le gouvernement peut aider les communes à le faire. Je vous dis que pendant les vacances, les enfants vont se récréer, les jeunes vont se récréer, jouer au basket, au foot, même au foot, même au rugby. Il y a tellement de jeux maintenant. Donc s'ils font ça, je vous dis que il y aura la vivacité dans les quartiers. Il y aura de la vie dans les quartiers. Je donne l'exemple de Onyomé. Onyomé ici, juste à Idogome ici. Il y a l'école primaire. Le ministre Kokoroko a fait clôturer l'école primaire. Je ne vous dis pas ce que les gens engrangent, la commune engrange comme fond. Et ceux-là qui viennent animer, des grands artistes qui viennent chanter sur le petit terrain là-bas. Et c'est plein. Vous voyez ça? Les gens ont besoin du loisir. Donc, je crois que partant de ces infrastructures dont tu parles, on peut aussi arriver à créer des infrastructures sportives, de loisirs, pour que les jeunes s'égayent dans les quartiers en période de vacances.
D'accord, pas seulement dans la zone urbaine, mais à l'intérieur.
Aussi à l'intérieur, je parle des communes. Du soutien du gouvernement aux communes, en matière de fonds, et de fonds conséquents. On prend par exemple la commune de Lomé, les grandes communes de Lomé, on peut débloquer 2 milliards à chaque commune pour pouvoir construire des infrastructures sportives.
D'accord.
Là, j'en appelle au ministre des Sports qui fait des efforts, Madame Bessikama, qui fait des efforts. Il n'a qu'à faire des projets. Soumettre des projets, je ne veux pas être plus intelligent qu'eux. Soumettre des projets comme Kokoroko le fait habituellement. Et aussi d'autres, quel ministre encore, soumettre des fonds à la BIDC, à la Banque islamique, tout ça là, pour pouvoir construire ces infrastructures.
D'accord.
C'est ça le Togolais veut.
Et
c'est ça qu'on veut.
Comme exemple, la dernière fois, la commune d'Aguenivé 1 a inauguré un espace multisport.
J'ai apprécié ça.
Voilà.
C'est justement ce que j'ai vu, ce qui m'a induit à dire qu'il faut que les autres communes aussi impactent ça dans leurs autres quartiers.
D'accord. Nous avons été rejoints par Magla Teko Kenvi du journal Flambeau des démocrates. Bonjour Magla.
Bonjour à toi Fuseni, bonjour au confrère ici présent Michel Lambra, bonjour à l'invité et puis bonjour Canal FM.
Et pour sortir de la région des savanes, des femmes ont participé à l'éco-jogging le week-end écoulé. Flambeau des démocrates en fait cas dans sa parution avec ce titre « Dapaon a vibré au rythme de femmes en éco-jogging ». Magloire Teko.
Bien entendu, éco-jogging c'est ce projet, c'est ce concept qui participe à la protection de l'environnement en ramassant des ordures un peu partout dans les ruelles, dans les coins. Et c'est ce phénomène ou du moins ce projet a été amené auprès de nos compatriotes du Septentrion, notamment dans la région des Savanes par une consoeur qui a créé une association qui travaille justement dans l'écologie. Et donc ils ont choisi justement la journée nationale des sports pour amener véritablement ce projet à l'encontre donc des femmes de la région des Savanes,
à l'endroit des femmes,
des femmes bien entendu, parce que c'est ça la spécificité de ce projet. Et on a ciblé les femmes parce que à en croire les premiers responsables de cette association, il s'agissait justement de mobiliser les femmes pour jouer le rôle de veille citoyenne, surtout dans cette période un peu sensible au plan sécuritaire dans la zone.
D'accord.
Et donc, vous savez que quand la femme, elle est décidée, quand la femme, elle est bien associée à un projet, ça marche toujours. Et donc, comme les premières autorités du pays invitent les populations à collaborer véritablement avec l'effort de sécurité en ce qui est des renseignements par rapport à ces individus, à ces groupes-là qui perturbent la quiétude des populations, les tenants, les premiers responsables de cette association ont jugé bon d'amener ce projet dans la zone pour profiter, sensibiliser les femmes beaucoup plus, non seulement à la protection de l'environnement, mais également à participer justement à ce rôle de veille citoyenne pour lutter contre le terrorisme.
D'accord, initiative louable. Nous avons aussi un invité ce jeudi, il nous vient de Cap Togo. Le sujet au centre de nos discussions est le lancement d'un nouveau produit par la société sur le marché togolais. Avant de lui donner la parole, découvrons ce titre dans Ouara les vainqueurs. Le journal titre, pour une lubrification de haute performance, Cap Togo lance Cap Taurus, une nouvelle gamme des huiles à moteur synthétique. Alors, monsieur Marcelin Mazama Alema, bonjour.
Bonjour, Fuseni.
Alors, vous êtes chef service commercial à Cap Togo. Cap Togo n'est plus à présenter, mais juste un mot pour mieux présenter la société.
Ok, merci pour la parole. Je dis d'entrée, un bonjour à tout le plateau, un bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Et merci pour la parole, merci pour la question. Et pour présenter la société Cap Togo, on peut dire que Cap Togo, c'est la compagnie africaine de pétrole au Togo. Et c'est une compagnie, et c'est une société anonyme de droit togolais qui est créée en 2006 et suite à la liquidation de l'ancienne société que les gens connaissaient, Cap Well. Et c'était appelé précisément Cap Esson. Donc on peut dire que Cap Togo est une société commerciale qui est spécialisée dans la distribution des produits pétroliers, notamment le carburant, les huiles à moteur, le gaz butane et d'autres articles et accessoires qui participent à l'entretien de véhicules.
D'accord. Alors Cap Togo lance Cap Taurus. Parlez-nous de ce produit. Quelles sont les différentes gammes?
Donc, en avril 2023, et la société a décidé de rehausser le niveau de sa branche lubrifiant et en mettant sur le marché togolais et à sa disposition de sa clientèle une nouvelle gamme de lubrifiants de haute performance dénommée Cap Taurus. Donc nous pouvons citer des huiles comme nous avons les huiles minérales, les huiles semi-synthétiques, les huiles synthétiques, les huiles hydrauliques, les huiles à pont, les huiles de transmission et les lave-injecteurs et d'autres articles qui participent à l'entretien de véhicules. Donc Cap Taurus, c'est la nouvelle gamme de lubrifiants que nous avons mis sur le marché et pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins de nos clients.
D'accord.
Donc il faut reconnaître que depuis un certain temps, vous avez remarqué que le parc automobile de notre pays se renouvelle année en année par la proportion de nouveaux véhicules que nous voyons. Et pour pouvoir, ça veut dire que satisfaire les besoins et de la clientèle qui utilise ces véhicules, il faudrait être, c'est qu'à l'actualité, il faut être compétitif, mettre à la disposition de la clientèle, c'est qu'une hulle qui permet, c'est que de permettre aux clients d'utiliser et pour pouvoir et contrôler ou bien entretenir valablement leur véhicule. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur le marché Captorus. Et la particularité de cette hulle, c'est que nous avons mis à la disposition de notre clientèle et les hulles synthétiques. Les hulles synthétiques, nous véhiculons un message tout autour de ces hulles parce que les véhicules que les gens utilisent aujourd'hui consomment beaucoup les hulles synthétiques. Donc pour répondre, les gens vont se demander bon, à quoi, qu'est-ce qu'on appelle une synthétique. On peut dire qu'une synthétique, c'est une huile fabriquée à partir d'un composant chimique.
D'accord.
Associé des additifs. Associé des additifs et recommandé par les véhicules relativement neufs et pour l'entretien du. Donc on peut citer les huiles comme 5W30, 5W40 et 5W20.
D'accord. Michel Tchadja.
Oui, nous avons appris également que ces huiles Captorus sont certifiées API et c'est American Petroleum Institute et ACEA, Association Européenne des Constructeurs Automobiles. C'est quoi concrètement?
Ok. Lorsque vous voyez les huiles à moteur, ou bien vous achetez une huile à moteur, il suffit de regarder sur l'emballage, vous allez voir que cette huile a été certifiée. Et ce sont les certifications de normes internationales. Quand vous voyez, on dit que Captorus, les huiles Captorus qui sont certifiées API, American Petroleum Institute, ACAE, Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, ce sont les normes internationales établies par les organisations internationales après un processus d'analyse et d'étude pour valider les huiles. Donc après la validation, c'est-à-dire que les constructeurs peuvent homologuer ces huiles-là. Donc on veut dire que donc, ce sont les huiles de bonne qualité et très fiables que vous pouvez utiliser. Donc les huiles Captorus, surtout les huiles synthétiques que nous commercialisons aujourd'hui, répondent à toutes ces normes internationales. Donc c'est que quelqu'un qui prend le bidon, qui prend un échantillon de l'huile Captorus, l'huile synthétique, il va voir toutes ces spécifications et normes sur le bidon. Et c'est ça qui va lui permettre de comprendre que cette huile, elle est fiable, elle est de bonne qualité et je peux l'utiliser sans tout équivoque.
D'accord. Donc, c'est destiné seulement aux véhicules. Les motos ne sont pas concernées.
Non, les motos sont concernées. J'ai dit à d'entrée dans mon élément que Captorus, c'est une gamme, c'est la nouvelle gamme de lubrifiants composée des huiles minérales. Lorsque vous prenez les huiles minérales, généralement, les huiles minérales correspondantes, on dit que ça correspond aux véhicules un peu âgés.
D'accord.
Aux véhicules ou bien engins un peu âgés. Donc, les motos, les véhicules peuvent utiliser ça. Mais nous avons aussi les huiles synthétiques.
Voilà.
Les huiles synthétiques, c'est recommandé aux véhicules relativement neufs. Aux véhicules relativement neufs.
D'accord.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever, prendre une synthétique et utiliser ça comme ça. C'est
d'accord.
Une huile qui doit être recommandée par votre constructeur automobile ou votre mécanicien.
D'accord, bien noté. Michel Tchadja, vous avez une autre question.
Oui, ça fait, il a parlé d'avril 2023 que les huiles Torus, Captorus sont sur le marché. Est-ce qu'il peut nous dire 5 mois après, en tout cas si j'ai bien compté, 5 mois après, quel est vraiment l'accueil que la clientèle donc réserve
d'accord, monsieur Aleman.
À cette huile, à ces huiles-là.
Oui, merci Michel. Bon, pour répondre à la question de Michel, bon, les gens vont se demander avant Cap commercialiser seulement que les huiles minérales. Mais pourquoi d'un seul coup nous sommes rentrés sur le marché des huiles synthétiques? J'ai dit à l'entrée que bon, le parc automobile de notre pays se renouvelle de jour en jour, année en année, par de nouveaux véhicules. Donc il faudrait, et ces véhicules utilisent les huiles synthétiques. L'autre aspect de la chose, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de ces véhicules, vous allez voir, les nouveaux véhicules sont des véhicules très sensibles et électroniques. Donc le choix de l'huile est très important. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle huile synthétique pour faire le vidange de votre véhicule. Donc nous allons voir que beaucoup de ces véhicules aussi tombent en panne. Et généralement, les pannes sont liées au choix du véhicule. Soit vous avez choisi, au choix des huiles, soit vous avez fait un mauvais choix d'huile, ou bien c'est que l'environnement où l'huile a été fabriquée n'est pas adapté. Donc, Cap Togo, nous avons analysé tous ces problèmes et constats et nous avons fait des approches de solutions. La première approche de solution, c'est de mettre à la disposition de notre clientèle des huiles synthétiques de qualité exceptionnelle qui répondent aux exigences de notre environnement.
D'accord.
Et l'autre aspect de la chose, apporter une assistance conseil à tous les clients qui aujourd'hui qui doutent de ces huiles synthétiques que Cap est en train de commercialiser pour leur dire que non, cette huile, elle est de bonne qualité. Donc c'est dans cette ordre d'idée que la société Cap Togo a noué un contrat avec la société Minerva Oil. Je profite de l'occasion pour dire à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent faire des recherches sur la société Minerva. Vous tapez dans le moteur recherche Google, vous tapez Minerva Oil et vous aurez toutes les informations sur cette société. Donc nous avons noué, conclu un contrat avec société qui est l'un des meilleurs fabricants d'huile à moteur en France. Lorsque vous prenez le top 5 en Europe, cette société y fait partie.
D'accord.
Et elle a plus de 50 ans dans le domaine. Donc elles ont eu une expérience accrue. Et cette société a fabriqué l'huile en tenant compte des réalités de notre pays. Vous savez que le Togo a un climat tropical chaud. Et l'huile Cap Taurus a été fabriquée en tenant compte de l'environnement et le climat de notre pays. Donc après la fabrication et les analyses comparatives sur la base des échantillons et ont été faites en Europe et surtout avec la société SGS qui est spécialisée dans le domaine, nous avons reçu les résultats et les résultats ont été très concluants pour montrer que cette huile, elle est de très bonne qualité. Elle ne doute d'aucune ambiguïté.
D'accord. Alors, pour un client qui est à Dapaon, est-ce qu'il peut facilement avoir accès aux huiles Taurus? Voilà, Cap Taurus.
Oui. Vous allez voir que les huiles Cap Taurus, vous allez trouver les huiles sur la plus grande partie de nos stations-service. Sur toute l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Vous allez trouver ces huiles synthétiques, toutes les huiles que je viens de citer, vous allez trouver ces huiles sur nos stations, et de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et vous allez trouver aussi ces huiles à la direction Cap Togo. À la direction Cap Togo, puisque nous faisons la vente en détail et en gros. Bon, ceux qui veulent la vente en gros peuvent venir à la direction générale de Cap Togo.
D'accord.
Et nous allons discuter avec eux et on peut leur disposer le produit aussi.
D'accord. Vous restez avec nous, le débat continue. Nous allons faire un tour au Gabon. Ce que certains appellent printemps des coups d'État, jusqu'ici observé en Afrique de l'Ouest, contamine donc l'Afrique centrale avec ce coup d'État ou tentative de coup d'État au Gabon. Le président Ali Bongo a été déposé hier par le commandant de sa garde présidentielle, le général Brice Onigi Nguema. Ce coup d'État est intervenu pendant la proclamation des résultats de la présidentielle du 26 août dernier, qui a donné vainqueur le président sortant, alors que l'opposition criait à la fraude. Les journaux en font cas ce mardi avec une photo grand format du président Ali Bongo à la une de Flambeau des démocrates qui titre « Triste fin ». La symphonie titre « Ali Bongo en résidence surveillée ». Gabon, fin du règne de la dynastie Bongo, titre le changement. À vouloir demeurer président à vie, le pouvoir a finalement quitté la famille. Gabon, ce que l'on sait du coup d'État contre Ali Bongo, initié par les militaires, lit-on dans la Nouvelle Tribune. Alors, on n'a pas encore fini, Michel Tchadja, on n'a pas encore fini avec le cas du Niger que nous apprenons hier au petit matin, un nouveau coup d'État au Gabon. Peut-on parler de contagion ?
Oh, parler de contagion, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, d'autres vont suivre. Ça, c'est si rien n'est fait, d'autres suivront, ça c'est clair. Parce que quand on parlait du Niger, est-ce que vous et moi, on a pensé au Gabon? Personne n'a pensé au Gabon. Mais voilà que hier, les militaires nous ont prouvé qu'ils suivaient les choses de très près et que à tout moment, ils sont là pour prendre leurs responsabilités. Vous savez... ce pouvoir gabonais, en tout cas qui vient de tomber hier, il était dans une sorte de paranoïa permanente. C'est un pouvoir qui, à un moment donné, depuis surtout le moment où le président, en tout cas Ali Bongo, a fait son AVC, vous avez vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que, bon, il ne reprenne. Le poil de la bête, ils étaient dans une situation de va-t-en-guerre. Tout le monde était son ennemi. Il ne se retrouvait pas. Tous ceux qui osaient le critiquer étaient éjectés. Vous savez, même dans sa propre famille politique, vous avez vu que tous ceux qui essayaient de dire « oui, mais », ils n'acceptaient pas « oui, mais ». C'est-à-dire, vous dites oui, et vous dites mais, vous êtes éjecté. Et bon, il voulait vraiment placer son fils qui bousculait tout le monde. Mais moi, je pose une question. Et hier, quand les militaires ont annoncé avoir arrêté un certain nombre de personnalités, mais je n'ai pas entendu le nom des médecins qui ont analysé Ali Bongo. Parce que si moi j'étais militaire, ces médecins, le collège des militaires qui, le collège des médecins qui analyse les candidats à la présidentielle, là, et il faut qu'ils viennent dire aux Gabonais qu'est-ce qu'ils cherchent sur les candidats. Non, c'est vrai. Et partout. Parce que si vous voyez, chez nous ici, en 2010, il y a ce collège de médecins qui est passé. Mais après, un candidat qui n'arrivait même pas à faire 5 minutes debout, qui tombait parfois lors de la campagne. Mais je me pose la question. Les médecins, ils cherchent quoi sur les candidats? Et qu'on nous dise que Ali Bongo est candidat, mais personne ne comprend rien. Donc, c'est un pouvoir qui a voulu, à un moment donné, se montrer très dur. Et quand on le dit souvent, quand c'est trop dur, ça risque de casser. Et parce que les mesures prises avant les élections, même quelques mois avant les élections, il a regroupé certains amis, ce que j'appelle les partis moustiques. Ils sont dans tous les pays. Ces gens-là qui font l'affaire des pouvoirs en place, quand ça ne va pas, on les appelle, ils viennent, ils boivent des champagnes, ils sortent un communiqué, qu'ils ont révisé, quoi. Mais ils ont appelé ces gens-là, ils ont fait leur salam alaykoum, ils ont fait tout. Mais ils ne savaient pas que l'élite militaire est en train de les observer. Dans leur hier, je demandais, mais où est Ali Claude Blimizé, qui nous a fait voir de toutes les couleurs en 2016. Il est où? Je crois savoir qu'il est le nouveau Premier ministre. Il est où? Je ne sais pas. Donc, d'accord. C'est pour dire tout simplement que les mesures prises avant les élections, c'était des mesures vraiment... Les Gabonais n'en pouvaient plus. Et les militaires, mais ils font partie de la société. Ils ont les femmes, ils ont des cousins qui ne sont pas militaires. Ils vivent avec nous. Ils voient comment nous souffrons. Et donc, les militaires gabonais, même quand on dit que non, ceux qui sont arrivés là, ils sont à la sorte d'une puissance. Bon, dans tous les cas, ils ont, en tout cas, fait œuvre de salubrité publique. Hein.
D'accord. Merci, Michel. Ambroise Kondio, est-ce la fin de l'ère Bongo?
Oui, je crois... de façon affirmative que c'est la fin de l'ère Bongo, mais c'est pas la fin du système.
D'accord.
C'est pas la fin du système qui gouverne le Gabon depuis 55 ans, d'autant plus que aux premières heures de ce coup d'État, nous on avait déjà annoncé déjà le mardi à midi, on avait posté quelque chose qui déjà voyait lueur de quelque chose comme ça en disant que si l'Union africaine, avec tout le Bataclan que Ali Bongo et son clan est en train de foutre là au Gabon, en interdisant aux médias internationaux de venir couvrir les événements, en n'autorisant pas les observateurs internationaux, en coupant l'Internet, tout ça là n'augure pas de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se trame, Michel le disait, et que les gens sont recroquevillés chez eux dans un pays de 850 000 habitants, ou plutôt 850 000 habitants, sont seulement les gens qui doivent voter. Alors qu'on a 150 millions à côté ici au Nigeria, et on prend 4 jours pour pouvoir sortir les résultats. C'est que, je dis, dans ce climat, normalement, l'Union africaine devait déjà sortir un communiqué pour avertir les autorités gabonaises.
Il faut préciser que c'est trois élections, hein, présidentielles, oui, régionales et puis locales.
Et je me dis que si jamais les militaires sortaient pour déposer Bongo, maintenant, on va dire que c'est un coup d'État. 24 heures après, patatras, le coup d'État arrive. Il y avait même un autre qui avait annoncé ça. Un autre prophète au Gabon, un jeune là, qui circulait, il mettait sur son tricot, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des choses comme ça. Tout est à refaire. Puisque lui-même, lui aussi, il est à refaire. Donc, tout est à refaire là, effectivement, et on est arrivé à tout est à refaire. Maintenant, ça, c'est la joie du matin. Maintenant, jusqu'à midi, quand vous êtes analyste, nous, on analyse jusqu'au-delà du factuel que les gens ont eu à voir à la télévision, sur la radio. La chose... Je l'analyse sur un angle où le colon n'est pas loin de ça. Puisque le Gabon, pour ceux-là qui ne le savent pas, est une province de la France. Je le dis entre griffes pour vous dire tout simplement que même au sein du cercle présidentiel, il y a un conseiller français qui est là-bas. Au niveau des militaires, il y a plusieurs conseillers. Parce qu'il y a des instituteurs militaires partout, même au Togo, il y en a. Mais au Gabon, c'est une province de la France. Ce qui fait que l'appréciation faite par les autorités françaises par rapport au coup d'État du Niger et celui du Gabon me signale immédiatement que c'est un jeu de chaises musicales qu'on nous a présenté la dernière fois. C'est vrai que les Gabons, les Bongos sont partis, mais le système demeure. Ce système demeure, et ça doit inquiéter plutôt les Gabonais. Il y a des éléments qui concordent à ce que je dis. Quand, à 4 heures du matin, vous, militaires, vous savez qu'on devait proclamer les résultats, et que quand les résultats traînent, c'est parce que le sortant a perdu. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise. Quand le sortant a perdu, il y a deux possibilités pour lui. Soit ils annoncent déjà à la fin du vote, le soir là, à minuit, qu'on annonce des chiffres, que c'est tel monsieur qui a gagné. C'est le sortant qui a gagné. On n'a pas fait ça. Mais si l'écart est tellement grand, on cherche à coller les morceaux avant de sortir, mais tout en mettant tout le monde au nouf. Donc on a sorti les militaires. Les militaires devaient aller bloquer les résultats que la CENI, leur CENI, devait publier et les obliger à publier les vrais résultats. C'est ce que les militaires devaient faire sur le principe démocratique et sur le principe du fait qu'ils disent que les élections ont été fraudées. Quand c'est fraudé, quels sont les vrais résultats? C'est ce que les militaires devaient faire. Ils ne l'ont pas fait. Mieux encore, quand vous suivez les médias français par rapport au Niger au Mali, c'est le contraire au niveau du Gabon. Moi, je suis journaliste. Et quand le traitement des papiers ou des tests ou des articles ou le traitement que les gens en font, nos confrères en font, ça te donne une idée que ça là, c'est des traitements biaisés. Les confrères jubilent quand tu les écoutes. Même les analystes qu'on a amenés sur les médias RFI, tout ça là, c'est des gens qui applaudissent le coup d'État. Mais ça s'est passé au Niger. Ça s'est passé au Tchad. Mais la France n'a pas appris les leçons de ce qui s'est passé après en pleine deux semaines, un mois. Donc pour vous dire que moi j'ai dit j'attends de voir les comment on appelle ça le pas voilà. Des militaires d'ici 1, 2, 3 mois.
D'accord.
Et là on avisera pour voir s'ils vont suivre les mêmes pas. Parce qu'on a vu aucun drapeau russe. Encore moins, il y a un certain l'autre là, le président d'une ONG qui est très virulent. On l'a reçu sur RFI. C'est lui qui m'a convaincu que ça là c'est un jeu de chasse musical. Il dit que nous n'allons pas, il ne va pas suivre ce que les Niger et le Mali font. Donc il accepte que la France soit venue derrière le Gabon.
D'accord.
Parce qu'il y a le pétrole, il y a le gaz.
D'accord, merci Ambroise. Triste fin, c'est ce qu'on lit à la une de Flambeau des démocrates. À la Malgoire, est-ce que Ali Bongo sort par la petite porte?
Bien entendu, même s'il y a encore une...
Le micro ne marche pas encore. Oui, allez-y maintenant.
Alors, je crois quand même que... je crois savoir que Ali Bongo est carrément sorti de la petite porte. Même s'il y a une
petite fenêtre, la fenêtre.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il pouvait y avoir une ouverture plus restreinte que la porte, je crois que c'est par là qu'il est sorti, sinon pas la petite fenêtre. En réalité, nous l'avons écrit et nous ne sommes pas peut-être les seuls analystes à le dire. Ali Bongo, on le sait, depuis un moment, était presque gravataire. Personne n'achète la maladie. Mais les concours de circonstances ont fait qu'il a été suffisamment diminué par l'AVC qu'il a eu. Et bon, là, malin, il a poursuivi son mandat jusqu'à la fin. Mais quand même, M. Ali Bongo, ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir. Et 14 ans avec le concours de certains autres acteurs. Tout à l'heure, Michel évoquait le cas des médecins. Je crois qu'on dirait que Michel et moi, on s'est concertés pour venir au studio. Mais en réalité, quand on veut annoncer l'arrestation des gens qui ont concouru justement à ce que la situation soit celle qu'on a aujourd'hui, on ne pouvait pas lâcher, on va dire, ou on ne pouvait pas ignorer les médecins qui ont validé sa candidature. Parce que nous tous, nous avons vu, M. Ali Bongo ne se portait pas bien. Moi, je le disais depuis, tout semble dire que M. Ali Bongo ne s'aimait pas. C'est-à-dire que lui-même, il ne s'aime pas. Parce qu'on ne peut pas éprouver tant de difficultés à marcher d'abord, à articuler les mots, mais devant les gens, on fait semblant comme si on se portait bien, mais en réalité, vous souffrez. Vous-même, vous savez que vous souffrez. Mais alors, à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui pousse véritablement certains acteurs politiques africains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, à ne plus jamais vouloir quitter? Et l'exemple palpable est celui d'Ali Bongo qui aurait pu sortir par la grande porte. Aujourd'hui, la question se pose de savoir quel est ce modèle de démocratie-là qu'on nous a vendu. En réalité, je crois que le débat, il est là-bas aujourd'hui. Parce que c'est les mêmes qui nous ont apporté cette démocratie, qui nous ont vanté tous ces mérites, qui font une sorte de politique selon la tête du client. On a vu ce qui s'était passé au Mali, par exemple, et au Niger, avec la virulence des puissances occidentales vis-à-vis de ces coups d'État. Mais bien avant, on a vu également ce qui s'était passé au Tchad, où carrément le Tchadien avait eu la bénédiction totale des puissances occidentales. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? Est-ce qu'il y a une démocratie à part entière et une démocratie entièrement à part? On ne comprend pas. Et quand les choses se produisent comme cela, mais qu'on ne soit pas surpris à la base ou après que des militaires se décident un jour de mettre fin au désordre. Parce que quoi qu'on dise, on nous a dit, nous avons posé la question ou la problématique dans notre éditorial, que ben, on nous a toujours dit que l'autre nom de l'armée, c'est la Grande Muette. C'est-à-dire que leur place est dans les casernes, leur place, voilà, ils n'ont pas le droit de s'immiscer sur un terrain politique. C'est ce qu'on nous a fait comprendre par les principes démocratiques. Mais alors, posons-nous les bonnes questions. Les militaires, est-ce que ce ne sont pas des citoyens? Est-ce que dans chaque famille, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers? Et est-ce que la vie de la République n'engage pas les militaires? Mais quand, à un moment donné, on estime que les militaires ont le devoir de participer à la protection ou de leur pays, participent à la protection des autorités légales qui sont là, mais à un moment donné, quand ces autorités-là commencent par déconner entre griffes, qu'on ne soit pas surpris qu'il y a des militaires qui décident, n'est-ce pas, d'intervenir pour recadrer tout le monde. Et c'est ce qui se fait. Et pour moi, véritablement, on peut beau peut-être vouloir voir derrière tout ce qui se passe sur le continent la main d'une certaine puissance. Mais tenons-nous au fait que de la Guinée au Mali, en passant par le Niger, le Burkina, aujourd'hui le Gabon, il y a un fait. Si les militaires décident de sortir de leur caserne pour s'immiscer sur un terrain politique, c'est qu'il y a un réel problème. Et ça interpelle les intellectuels africains. Je dis les intellectuels africains parce que aujourd'hui, quand les gens soit décident de tripatuer la constitution pour perdurer au pouvoir, vous verrez toujours derrière ces chefs d'État-là la main des intellectuels. Si ce n'est pas des juristes qui viennent nous prouver par A plus B qu'on peut changer la constitution parce que, c'est des médecins intellectuels mais véreux qui, même grabataires, on peut prendre quelqu'un sur un lit d'hôpital, on tente de nous prouver qu'il se porte bien. Et c'est ça l'exemple palpable du président gabonais. C'est pour ça que nous disons, oui, d'accord, on peut aujourd'hui critiquer comme on peut les chefs d'État qui, à la fin, subissent des coups d'État, ce qu'on regrette d'ailleurs, mais c'est la résultante d'un certain nombre de faits qui, à un moment donné, interpellent la conscience collective. D'accord. Et il faut quand même que les intellectuels africains aident maintenant le continent africain à évoluer. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'un président est hérité d'une constitution dont le mandat est limité à deux, et que à la veille de la fin de son mandat, que des intellectuels, des juristes, des éminents juristes inondent les médias pour expliquer aux gens que non, parce que, donc, le monsieur X ou Y peut encore rempiler. C'est ça qui frustre les gens, c'est ça qui motive les militaires à sortir de leur caserne et à faire valoir leur statut de citoyen sur un terrain politique.
D'accord, merci Bagloire.
Non, Michel Tchadja. Je pense que quand Magloire parle des intellectuels, je pense qu'on peut les classer en deux. Il y a des intellectuels honnêtes. Malheureusement, il y a des prostituées intellectuelles. Et on ne peut pas les purger, on ne peut pas les. Ils sont toujours là. C'est eux, vous vous rappelez au Sénégal, c'est eux qui étaient derrière Abdoulaye Wade pour lui dire que non, ce qu'il est en train de faire, c'était bien. Qui pouvaient se maintenir au pouvoir. C'est les mêmes qui étaient au Niger.
Macky Sall.
Pour dire à Mamadou Tandjako, non, mais accordez-le 3 ans pour terminer les projets. Or, tout le monde sait que les projets appartiennent à l'État, c'est pas pour quelqu'un. Comprenez? Et donc, dans le cas du Gabon, c'est qu'il y a eu une suite d'événements que tout le monde a laissé voir. Et je à supposer que hier matin, les militaires n'avaient pas posé cet acte. Donc, on va nous dire que Ali Bongo a été démocratiquement élu. Qu'il est démocratiquement élu. Qu'il a été, que ça a reçu des élections libres, transparentes, démocratiques. Et que, il doit continuer. Vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, les masses, les peuples suivent des choses de très près. Ce n'est pas dans les années 80 que quelques personnes savaient ce qui se passait. Et bon, ça coule. Aujourd'hui, tout le monde suit de très près ce qui se passe. Et si les militaires n'avaient pas posé cet acte, Ali Bongo devait continuer à la tête du Gabon parce qu'il a été démocratiquement élu. Alors que les bourrages d'une, c'est les militaires même qui regardaient ça comme ça, filmaient. Ailleurs, selon un confrère que j'ai joint là-bas, c'est, ils filmaient. Donc ils ont les preuves pour ceux qui... Puisque les diplomates, vous voyez, UIA et choses, CEMAC, ONU, ceux qui vont venir demander à revoir là. On peut leur montrer ça pour qu'ils voient comment on a traîné et à proclamer les élections pour essayer d'arranger, d'arrondir les angles et donner finalement la victoire. Et à quelle heure qu'on a proclamé ces résultats. Ils pensaient que les militaires eux, dormaient, et ils ne dorment pas. Ils pensaient qu'ils dormaient, et ils ne dormaient pas. Donc, c'est une manière de nous dire que l'autre, Magra se posait la question, c'est quelle démocratie on veut finalement dans nos pays, surtout dans les pays francophones. C'est quelle démocratie où les arrangements, les trucs là, ça se passe, et que mais ce qui étonne, mais quand les gens la font, ces arrangements, ils sont là, mais ils ne donnent pas aussi le bonheur au peuple. Si au moins ils s'arrangent comme ça, et ils donnent le bonheur aux gens, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne va pas être président. Tout le monde ne sera pas ministre. Mais d'accord, quand même. Donc, tout ça là, tous les événements là, qui se sont déroulés depuis la convocation du dialogue bidon que Ali Bongo a organisé là-bas, tout ça là, les militaires observaient de très près. Donc, aujourd'hui, moi, tout le regret que j'ai, c'est qu'on a arrêté ces gens-là pour corruption, tout ça, là, les personnalités dont parlaient les militaires hier. Mais je n'ai pas été satisfait. Au moins, les médecins, là, le collège des médecins, ils doivent venir, pas pour les garder, mais qu'ils s'expliquent. Qu'est-ce qu'on cherche sur les candidats à la présidentielle dans le pays, surtout francophone? On cherche quoi sur eux?
D'accord. Bon, dans une vidéo, le président déchu, avec des larmes aux yeux, appelait ses amis à lui venir en aide, mais je ne sais pas si jusqu'à présent ses amis ont entendu. Mais on peut dire que le président Ali Bongo n'a pas eu la même chance que Bazoum, parce qu'avant même d'appeler ses amis, il y a eu des bonnes volontés qui sont venues, qui ont décidé de venir à son secours.
Tu as cité deux noms. Je voudrais prendre pour celui qui est déposé le mercredi. Moi, j'allais lui chercher une bassine pour que ses pleurs puissent remplir au moins trois bassines. Ça, c'est lui. Bazoum, qui te dit que... Qui te parle de chance? Lui, là-bas, là. Son cas est plus compliqué que Ali. Ali, on va le trouver quelque part avec tous ses droits, tout ça, là, c'est bon. Puis ça, on va considérer qu'il est tétraplégique, il est malade. On va lui... Tout ça, là, on va... Sauf que c'est son fils, sa femme, là. C'est-à-dire qu'il y a des méchantes qui sont là-bas. Maintenant, Bazoum, lui, son cas est compliqué. Parce qu'il a appelé les gens à venir tirer sur les militaires pour que lui, il soit président. À cause de lui seul, son intérêt, il veut que le peuple nigérien meure. Bon, revenons maintenant aux histoires de coups d'État.
Oui.
Les coups d'État ont commencé. Personne n'a jamais aimé un coup d'État. Moi, personnellement, je n'ai jamais aimé un coup d'État. Parce que chez nous, dans ma langue, et on dit, soit la goûterie, quand le militaire prend le pouvoir là, tu ne sais pas ce qui adviendra ton pays. C'est vrai qu'il y a des institutions internationales, il y a des institutions régionales, tout ça qui suivent. Mais sauf qu'eux aussi ne sont pas sérieux. Comme ils ne sont pas sérieux, les militaires prennent le pouvoir pour des trucs. Et les gens vous disent qu'il y a deux formes de coups d'État. Il y a des coups d'État qui sont condamnables, qu'il ne faut jamais accepter. C'est ce que les Tandja, les Dibo, tout ça là, ont fait dans la zone Guinée, Mali et Niger, tout ça là. Maintenant, les coups d'État qui sont produits au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ça a une connotation panafricaniste et anti-impérialiste. C'est ça qui galvanise les foules. Ça aussi, c'est vrai qu'il faut, les observer pour voir, pour qu'on puisse arriver au bon port, c'est-à-dire qu'il y ait des élections. Mais que le pouvoir ne tombe pas dans les mains des néos, ceux qui adulent les néocolonialistes, les néo-impérialistes. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, moi, j'applaudis toujours les Goïta, ceux-là qui sont au Niger et au Mali. Maintenant, pour le cas de ceux qui sont passés au Gabon, je me dis, tout a commencé par le Togo, comme d'habitude. Le premier coup d'État en 63 a commencé ici, au Togo. Sylvanus Olympio est mort comme ça, gratuitement. Et jusqu'à présent, les dossiers n'ont pas été classifiés pour savoir qui a tiré ou qui n'a pas tiré. Et le Togolais en souffre pendant plus de 60 ans. Ça, c'est un. Quand l'histoire de mandat, de 3 mandats, 4 mandats a commencé, c'est toujours pas le Togo. Et ceux-là, au Gabon et autres, ils copient la mauvaise chose. La dernière fois, nous, au Guadeloupe, on titrait. Quand le secrétaire exécutif de l'UNI et la présidente de l'Assemblée sont allés au Gabon, c'est pour faire quoi? C'est pour aller féliciter le président gabonais pour son troisième mandat qu'il veut faire. Mais là, la personne, lui, il est en mauvaise posture. Eux, ils disent de quoi? Ils disent quoi ici? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, j'ai toujours dit, quand tu as un grand frère, tu as des frères et des sœurs qui sont dans le mal, qui foncent dans le mur, aie le courage de leur dire la vérité que la voie que vous empruntez n'est pas bonne pour vous et pour vos enfants. Parce que tôt ou tard, vous mourrez, vos enfants resteront et c'est eux qui vont en subir le mal. Parce que je me rappelle de l'apôtre Jérémie qui allait dire au roi Josias, il a foncé dans le palais présidentiel, palais du roi, pour lui dire la vérité. On a voulu la vérité, il s'en foutait pas mal. Lui, il a dit sa vérité. Quelques jours après, Nabucodonosor est rentré dans la ville, il a tout détruit. On a percé les yeux de Josias, on a tué ses enfants, tout ça, devant lui. Pour dire que, si nous, on a un conseil à dire au président de la République, Fonia Simbé, aujourd'hui, ce matin, moi, je n'ai pas besoin d'aller chez lui à la présidence, de s'entendre avec l'opposition togolaise pour organiser les élections transparentes, pour que nous tous, frères, dans un même pays, puissent être en paix demain. Parce que ce qui s'est passé au Gabon ou au Niger, moi, je ne voudrais pas que ça arrive ici.
On ne va pas faire l'apologie du coup d'État. Hein?
Non, non, qui fait l'apologie du coup d'État?
Voilà.
Suis-moi très bien. Je pèse mes mots et je sais de quoi je parle. Je dis bien, moi, je ne voudrais pas que ce qui se passe là-bas arrive ici parce qu'ils sont capables de démonter. Ils sont capables d'éviter ça en amont. En faisant quoi? Organiser dans la transparence. Des gens comme Boukwessi, tout ça là, il faut éviter que ces gens-là arrivent au pouvoir. C'est-à-dire, il faut éviter que ces gens occupent les postes de ministre pour créer un problème à Fonia Simbé. Parce qu'il s'agit d'eux. Parce que quand ils sont là-bas, là, ils n'arrangent pas Fonia Simbé. Hein. Fonia Simbé, peut-être, lui, il est plus âgé, un peu plus âgé que moi, mais il n'est pas peut-être le mal. Mais c'est ceux-là qui l'entourent qui sont le mal. Il faut arriver à se dissocier de ces gens-là, organiser les élections transparentes, léguer le pouvoir pacifiquement. Son quatrième mandat est en train de finir. Je l'ai dit la dernière fois. Fonia Simbé peut dire, moi je ne vais plus aller à ces élections-là. Il peut préparer quelqu'un dans Uni pour le représenter. Ça mais organiser des élections transparentes pour que le pouvoir soit pacifique à transférer.
D'accord, merci. Magloire.
Oui, je crois que vous posiez tout à l'heure la question de savoir est-ce que l'appel du président gabonais a été écouté par... ses alliés dont il parlait, on ne saurait le dire, mais ce qu'on sait véritablement, c'est que derrière, il y a eu des réactions diplomatiques, la Chine, le Maroc, la France et tout ça. Maintenant, on se pose la question, est-ce que ça pourra changer la donne? Considérons que le vin est tiré, il ne pourra que le boire. Et c'est en cela que je reviens encore à notre titre, hein, une triste fin pour ce monsieur Ali Bongo, parce que au-delà du fait peut-être que lui-même hein, décide de se faire du mal à travers ce qui lui est arrivé, je crois quand même qu'il est aussi temps de se questionner sur le rôle joué par son entourage. Comment ça d'abord par sa femme? C'est-à-dire qu'on sait que la femme, si elle décide, elle veut, l'homme ou le mari se plaît toujours. Parce que Dieu lui a donné ce flair. Mais quel rôle a véritablement joué la femme de M. Ali Bongo dans sa vie, surtout ces derniers temps où il insistait à postuler encore à un nouveau mandat jusqu'à ce qu'il ne soit pris comme un petit poussin. Je me pose la question. Quand moi j'ai vu M. Ali Bongo dans sa chaise là-bas, annonçant qu'il a été gardé dans sa résidence là-bas, c'est vrai qu'il ne souffrira de rien en termes de charges financières ou d'entretien. Mais il m'a fait pitié parce que je l'ai vu assez chétif, d'un regard gaillard, comme ça, perdu. Il pouvait éviter ça. C'est pour ça que je me pose la question de savoir d'abord quel rôle a joué sa femme. Est-ce que la femme a joué, a essayé de le dissuader avant que lui-même ne refuse, ou alors c'est plutôt la femme qui l'instiguait plutôt à avancer les yeux fermés? Ça, c'est un. Maintenant, ces alliés politiques, on parlait tantôt du Maroc. Le Maroc a sorti un communiqué pour appeler à garantir sa sécurité et à prioriser la sécurité de l'État gabonais. C'est bien, mais on sait l'acquaintance qu'il y a entre le président Ali Bongo et le roi du Maroc. Est-ce que tous ces gens-là n'ont pas... Parce qu'en réalité, je me dis, le monsieur, il est malade. Vous tous, vous le savez, il est malade. Mais pourquoi vous l'avez laissé? Ne serait-ce qu'un simple petit conseil, vous pouvez lui donner. Parce que si aujourd'hui, il est dans cette situation, je présume que c'est parce que vous ne l'avez pas conseillé, y compris ses conseillers même qui travaillent avec lui. Mais Ambroise et le confrère Ambois évoquaient tantôt le cas de Lomé. Moi également, dans mes réflexions, en toute responsabilité, je me suis posé la même question. Quel conseil M. Fonyansibé a pu donner à M. Ali Bongo? Parce qu'on sait qu'ils étaient ils sont très proches.
Des jumeaux.
Presque des jumeaux politiques, on va dire. Et quand je me rappelle que lorsque M. Ali Bongo a fait son AVC, il est allé se traiter, je crois, en Arabie Saoudite. Après, il a fait sa rééducation au Maroc. Lorsqu'il est revenu au pays, c'est M. Fonyansibé qui a été le premier chef d'État a été reçu ou à s'entretenir avec lui. Et en l'espace de quelques jours seulement, il a effectué 2 ou 3 visites pour le voir. Ça dit tout sur leur amitié. Et il y a juste quelques jours, je crois, en juillet, il y a une délégation de UNIR qui allait au Gabon naturellement pour peut-être le féliciter, l'encourager, lui apporter son soutien. Mais voilà la finalité. Voilà la finalité. Et donc, cela m'a amené à me poser également la question de savoir, est-ce que, sur la base de l'amitié qui est entre M. Fonyansibé et M. Ali Bongo, il n'aurait pas pu, je ne suppose pas qu'il ne lui a pas dit, mais je tiens compte toujours de la finalité, c'est-à-dire qu'il a été aux élections, on l'a proclamé, mais il a été déposé. Et c'est ce qui me fait mal. Et donc, si, sur la base de cette amitié, M. Fonyansibé avait vraiment insisté, je crois que ça aurait pu contribuer
mais
à
lui peut, éviter. Il peut insister, mais si...
Non, on peut conseiller quelqu'un qui refuse. Voilà,
ça, mais je dis,
voilà, quand on aime vraiment un ami, bien qu'il soit peut-être récalcitrant, on peut insister jusqu'à ce qu'il comprenne que mais ça dépend
on ne pourra
de sa
pas
propre
le forcer.
Santé. On ne pourra pas le forcer, certes, mais on pourra quand même essayer de faire ce qu'on... Parce que quand on a envoyé publiquement... une délégation à l'investiture, je crois
que
c'est ça.
Non, c'est ce que Guardian a publié.
Le micro.
Voilà, quand on a envoyé...
Le comité exécutif
de UNIR et la présidente de Madame Tchegan, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, ils ont été au Gabon, je crois que c'est à l'investiture, non? C'est public.
C'est l'investiture de son troisième mandat.
Voilà, de son troisième. Ça voudrait dire que on n'est plus à l'étape de conseil.
Non.
Ah oui, on a. Ça veut dire que on n'est plus à l'étape de conseil, mais on valide plutôt.
On est à l'étape du soutien.
Voilà, du soutien.
D'accord, merci.
C'est ça que je regrette.
Je donne la parole à Michel.
Non, Michel. Moi, je ne partage pas cette idée de Maguire, parce que Fonyansibé n'est pas gabonais. C'est une affaire gabonaise. Donc, ils peuvent se donner des conseils. Mais quand il s'agit de la politique intérieure, je pense que il y a certaines choses qu'on évite diplomatiquement d'en parler. Et le soutien que UNIR a apporté, c'est le soutien des partis politiques. C'est normal que les partis politiques soutiennent. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ce que moi je dis, c'est que Ali Bongo, avant qu'il ne soit renversé, il mange combien? Quand on le regarde là, il mange combien? C'est pourquoi je suis d'accord qu'elle part avec Ambroise. Les clans qui entourent les chefs d'État, les réseaux, qu'ils soient visibles ou invisibles. Ce qui se passe là-bas, vous avez Bouteflika, c'est étant dans son fauteuil roulant. Il y a des gens qui disaient non, il est bien, il est bon, il peut diriger l'Algérie.
C'est ça.
Vous pensez qu'il mange quoi? C'est des gens qui se servent de ces gens-là comme des fétiches. Et maintenant, ils ont le droit de faire de n'importe quoi. Ils sautent maintenant, ils vous créent des problèmes partout parce qu'ils ont quelqu'un sur qui ils comptent. C'est tout le problème.
Même au Gabon, on parle des signatures fictives.
Fictives, ça veut dire qu'ils falsifiaient les documents au nom du chef de l'État.
Pour détruire
les militaires observaient. Et ils pensaient que, bon, comme ils ont le pouvoir, et comme quelqu'un le disait, on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Mais non.
D'accord.
On ne fait pas faire du pouvoir ce qu'on veut. Vous voyez? Parce que... c'est ce que l'autre a voulu faire aussi. Comment l'appelle-t-on? L'ancien président Zimbabwe, Mugabe.
Robert Mugabe.
Mugabe, les gens l'ont servi depuis des années et il pensait à sa maîtresse pour le susciter. Vous voyez comment? J'ai l'impression que quand on est au pouvoir à un moment donné, il y a ces choses qu'on ne peut pas comprendre facilement. Donc il pensait, il croyait au palais quand il est assis face à face avec sa maîtresse. Il pensait que, bon, dehors là.
ça va aller sur les roulettes. Alors que c'est les gens qui tiennent et toi tu tiens. Mais ils, à un moment donné, vous avez vu le sort qu'il lui a réservé. Donc, comment on peut continuer comme ça à supporter des gens à un moment donné qui ne peuvent pas tenir? Ils l'ont fait jusqu'à hier à 4 heures, quand ils sont allés vite proclamer les résultats, la nuit, avant que les gens, pour surprendre les gens. Mais non, vous ne pouvez pas surprendre Dieu. Dieu a programmé ça. Et ça s'est produit.
J'ai voulu ajouter à ce que Michel a dit. Il a dit, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ali Bongo, à un moment donné, après son AVC, il a été utilisé comme un pantin. Tout ce qui l'entoure, c'est eux qui pillaient. Ça, c'est ça. Il faut être clair. Et en plus,
Mélenchon a parlé de marionnette présidentielle.
Voilà, oui. Moi je l'avais déjà dit avant, Mélenchon aussi.
Oui, allez-y encore.
Je vous dis qu'aujourd'hui, quelle leçon il faut tirer du sort qui a été réservé à Ali Bongo dans les autres pays ou les chefs d'État. Vous allez voir au Cameroun, le président Paul Biya a changé la nomenclature, l'organigramme des militaires. C'est-à-dire que tu as beau changer même Dieu, la place de Dieu. Quand le moment va arriver, tu vas partir pour... Mais les représailles seront dures. La tendance ici, dans certains pays, comme chez nous, Togo, on dit, oh, ça va passer, nous, on est tranquille. D'accord. Si vous êtes tranquille, comme la vieille a l'habitude de me dire, moi, je mets ma main au menton et je regarde. Parce que moi, j'ai considéré les autres, le chef de l'État, tout ça là, comme nous sommes, nous, c'est nos grands frères. C'est nos petits frères qui sont là-bas. Et donc, s'il y a un conseil à leur donner, il faut avoir le courage de dire la vérité à la personne. Il peut te couper la tête, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que ce que tu lui aurais dit, ça lui aurait servi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne badine plus avec les peuples, hein, avec les réseaux sociaux, le WhatsApp, tout ça là. Quand tu fais quelque chose dans l'ombre, tu falsifies les résultats, ça va se savoir. C'est la même chose qui s'est passé là-bas, qui s'est produit ici. Et on nous a crié sur tous les toits comme quoi. Et n'oubliez pas que le Togo a été toujours soutenu par l'Occident. N'oubliez pas ça. La France est toujours derrière. Les États-Unis, tout ce monde d'Europe, là, la preuve. Quand on chasse les militaires étrangers là-bas, au Niger, au Mali, j'ai lu quelque chose comme quoi la France et les Européens veulent négocier quelque chose pour que les... Bon, j'ai appris quelque chose, ce n'est pas encore confirmé. Mais je dis au chef de l'État, Fong Yassine Bey, de ne jamais tomber dans ce piège-là. Ce que moi, je lui conseille, c'est d'organiser les élections législatives de façon transparente.
D'accord.
Si le parti uni perd, il perd.
D'accord.
Ce n'est pas la fin du monde. Mais négocier dans un dialogue avec l'opposition. Et pour que le Togo aussi soit tranquille sans ces bruits de bottes-là qui se passent ailleurs.
D'accord. Merci Ambroise. Magla, les militaires ont pris le pouvoir en estimant que les résultats ont été truqués. Mais au lieu de remettre le pouvoir aux vrais gagnants, ils ont préféré prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils n'ont pas profité de la situation?
Ah oui. Ils ont profité de la situation carrément parce que ils estiment que la situation elle est suffisamment pourrie qu'il faut marquer une petite pause, le temps de balayer un peu la maison, remettre les choses à leur place. Jusque là, moi je pense que on peut pas personnellement, je crois qu'on peut pas trop les accuser parce que s'ils sortent, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sortent de leur caserne, c'est parce qu'en amont, ils ont constaté qu'il y a une situation anormale. Et donc, aujourd'hui, vous imaginez s'ils interviennent, peut-être pour remettre directement le pouvoir à quelqu'un d'autre, ça va créer une situation un peu, disons, conflictuelle ou confuse où personne ne maîtriserait plus rien. Et donc, l'approche pour moi qui consiste donc à marquer une petite pause, le temps de corriger ce qui a corrigé, relancer la machine sur des roulettes. Je pense que ce n'est pas mauvais. Maintenant, comment conduire cette approche? C'est ça le vrai problème à mon niveau. Et déjà, pour moi, ils sont en train de commettre déjà les toutes premières erreurs. C'est-à-dire en décidant d'arrêter des gens. Pour moi, ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Je peux me tromper, mais j'estime que s'ils interviennent, oui, d'accord, ils interviennent pour mettre en veilleuse les institutions de la République et tout. Mais l'autre État consistera peut-être, hein, lorsqu'ils se sont constitués en autorité peut-être transitoire, de lancer les procédures pour instruire peut-être le conseil qu'ils auront mis en place et pour veiller au grain à ce que certains dossiers soient suivis de près. Mmh. Mais décider en même temps d'arrêter certaines personnes...
Non, mais peut-être c'est par précaution, parce qu'ils peuvent à un moment donné quitter le pays en emportant enfin, les biens accumulés.
Peut-être, mais ils peuvent trouver des termes pour le dire, mais décider, parce que je leur dis clairement que pour Gabeji... voilà, détournement de fonds publics, deniers publics et tout. Ils l'ont dit clairement. Mmh. Mais j'estime que pour le moment, ce n'est pas leur rôle d'aller directement arrêter les gens.
D'accord. Une minute avant d'aller à la pause.
Non, je pense que c'est un argument. Sinon, en réalité, peut-être c'est des personnes qui voulaient mettre hors d'état de nuire. Parce que quand vous prenez le fils Nourdine Bongo, vous savez comment ce... C'était comme carrément le fils de Ibeka à la manette d'or. Ce qu'ont leurs papas sont chefs d'État. Comment ces gens-là, mais... Ils se comportent, le fils de Mamadou Sifou. Oui. Et voilà, c'est des gens, mais c'est vraiment, ils sont très
proches. Il faut les arrêter là.
Ils sont très proches du soleil.
Il faut les arrêter.
Ils se comportent comme, donc, ces gens-là, moi j'ai compris que,
faut les mettre en lieu sûr.
Aller dans le même sens que Magloire. Je pense que l'argument que les militaires ont avancé, quand j'ai lu dans le regard de ce colonel qui lisait, je ne pense pas que c'est... C'est des gens, on sait ce qu'ils sont capables de faire après la mise en résidence surveillée de Ali Bongo. Il fallait les neutraliser et choses avancées, c'est comme ça.
D'accord, merci à vous tous. Nous marquons une pause et on revient.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour pour la suite du Club de la Presse. Nous avons des auditeurs qui veulent réagir. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Fousséni.
Bonjour.
Monsieur Anani de Noukapou qui veut entrer en ligne.
D'accord, merci, monsieur Anani, vous êtes en ligne.
Bon, je pense que ce que le comité de, comment vous dites, pour la transition, restauration des institutions là, bon, c'est un machin. Moi, j'appelle ça un machin. Hein. Et Magloire a fait une observation que j'ai étudié en disant que pourquoi on a déjà publié l'arrestation de Valentin. Moi, je dis, hein, ce n'est pas bien de le dire. La manière dont ils ont dit ça, ce n'est pas bon. Mais il faut les arrêter et s'ils les ont arrêtés sérieusement, c'est bon. Donc, je pense que c'est ça va servir de leçon. Niger et Gabon, quand vous analysez, ça fait deux oppositions de fait. Donc, ça va servir aux anciens chefs d'État qui nous font du mal en Afrique. Merci.
D'accord, merci, monsieur Anani. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Gadou.
Monsieur Gadou, on vous écoute.
Vous savez, moi, je crois que c'est la France qui a précipité ce coup d'État. Parce que la France ne veut plus que le peuple ou bien les militaires prennent le pouvoir. Donc, il a rangé. Vous voyez? Bon, moi, ce que je voudrais demander, est-ce que les autres chefs d'État qui veulent mourir au pouvoir ne peuvent pas changer la constitution pour partir? Regarde Sassou Nguesso, Paul Biya, autres là. Parce que ça va les emporter. Parce que c'est normal, ça va les emporter. Mais je lance un coucou à Madame Adamago. Je voulais poser une question. Est-ce que la Rora a encore des coups d'État? Elle m'a dit beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on attend voir. Merci.
Merci, M. Gadeau. Allô?
Allô?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est Armand.
Monsieur Armand, vous êtes en ligne.
Il faut dire que si on regarde les principes de la démocratie, les coups d'État ne sont pas permis. Il n'y a pas de bon coup d'État, il n'y a pas de mauvais coup d'État. Mais c'est vrai, nous sommes... dans un système qui nous vient d'ailleurs. C'est pourquoi il va falloir que nous, les Africains, nous fassions une pause pour voir vraiment ce qui nous convient. Concernant le Gabon, moi je vois que, est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire la main sur la conscience que Ali Bongo avait bien voulu aller à cette élection par lui-même, pour lui-même? C'est une question que nous devons... Un grabataire, il est malade, ça on le sait. Il est diminué physiquement et sûrement sur le plan émotionnel et autres. Mais qu'est-ce qu'il va gagner à rester au pouvoir dans cet état? Il a même des difficultés pour se déplacer. Aujourd'hui, on nous dit que c'est son neveu qui prend le pouvoir. Et, bon, comment on peut comprendre ça? C'est un truc de palais. Donc sûrement les gens ont laissé faire dans l'optique de bon, on va voir, avoir un plan B. Et maintenant quand ça dégénère, on écarte le pauvre type et on se met devant. Mais il faut vraiment que nous les Africains nous réfléchissons vraiment, vraiment. C'est important.
D'accord. Merci monsieur Armand. Allô?
Ouais, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Nous allons bien. C'est monsieur?
Oui, c'est l'évangéliste Senghor. Hein.
D'accord.
Je salue tout le plateau pour l'émission ce matin.
Merci.
Bon, vous ne voyez pas que c'est un coup d'État similaire. Voilà, donc nous allons comparer ça avec le Tchad. Vous voyez, non? Ça dit que la Bible dit, hein, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Normalement, ce qui s'est passé là, la France est derrière. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a l'alternance quand même. C'est qu'en 5 ans au pouvoir, sans l'alternance, je salue l'armée. Mais ce qui se passe là-bas, mais hier, je regardais avec intérêt, les gens criaient, les soldats, les gens étaient contents. Tout d'abord, bon, je vois qu'ils sont contents parce qu'il y a l'alternance. Sinon, en réalité, non, on ne devait pas acclamer l'armée. On devait acclamer plutôt Ndossa, c'est-à-dire que le président. C'est lui qui a gagné les élections. Mais là, on parle de la transition. Quelle transition? Non! Vous voyez, non? Donc, je voudrais vraiment dire que c'est Dieu qui est en train de planifier toutes choses aujourd'hui en Afrique. Pour les chefs d'État qui sont là et qui piétinent leur population, et c'est pas qu'il y a le pouvoir là. Donc, c'est tout ce que les coups de temps ne vont pas mettre nous. Donc, que Dieu sauve l'Afrique, que Dieu vous bénisse aussi ce matin.
Amen. Merci. Allô? Allô,
allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour le plateau.
Oui, c'est monsieur.
Bonjour, Didier.
Monsieur Didier, on vous écoute.
Oui, bonjour, Tadja. Bonjour. Tadja, ce sont ces mêmes militaires qui aident les chefs d'État à se maintenir au pouvoir en nous bastonnant dans les manifestations, en les imposant, en rentrant dans nos maisons, nos tuer. C'est la même chose. Bon, mais ceci est essentiel, c'est que bon, ils puissent partir. Mais vous êtes parti aussi trop loin en parlant de ces intellectuels prostitués. Vous avez cité le Sénégal, le Niger. Venez dans notre maison. On en a plein ici. On a des professeurs agrégés, surtout regardez ce qui s'est passé au Togo en 2005. Le juge de la Cour constitutionnelle qui a prêté serment, a reçu le serment du président Faure. Quand mon enfant me demande, vous êtes ce que je demande, je dis que non, ça c'est histoire de grand, parce que je n'arrive pas à l'expliquer ce qui s'est passé. Un intellectuel agrégé de son état, quand il quitte ici, il peut aller travailler au Sénégal, il peut aller travailler au Mali, il peut aller. Mais comment, pourquoi il va se prostituer pour les chefs d'État? Donc c'est la crise de nos intellectuels au Togo. Même moi, je parle du tout, je ne parle pas des autres. Regardez ce qui se passe au moment des élections. Vous-même, monsieur Tadja, demandez les gens, les intellectuels, à venir intervenir à la radio, qu'est-ce que c'est de la politique, vous n'allez jamais les voir. Ces juges, ces professeurs d'université, c'est que vous les verrez jamais. Essentiel, c'est que Ali Bongo passe. Mais nous aussi, là, faut que ça nous donne de leçons pour qu'on puisse savoir que tout est vanité dans ce monde. Quand j'ai vu le monsieur là hier, les mains en l'air, je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis dit que la vie là, tout est vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Que ça fait de leçons aux gens qui sont ici aussi.
D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur Didier. Allô? Oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô? 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 Bon, en attendant qu'il s'apprête, nous allons prendre un autre. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Zoukini là, pareil.
D'accord, on vous écoute.
Oui, voilà, j'aimerais saluer tous les journalistes qui sont sur le plateau. Et dire merci encore à Ambroise Kondjo qui a fait une lecture vraiment très intéressante par rapport aux mots que les Français ont placés vis-à-vis de la junte nigérienne et de la junte gabonaise. Il y a sur leur télé Twitter, je ne vais pas citer la télé pour leur faire plaisir, ils ont mis le président de la transition gabonaise, M. Eligui Nguema. Alors qu'en aucun moment, cela fait plus d'un mois et demi, ils n'ont jamais dit que M. Tiani est président de la transition au Niger. C'est pour dire aux Français, comment on comprend français, puisque s'ils pensent que nous sommes toujours ceux qui ont appris le français dans les années 1800, qui se trompent. Ça, c'est d'un. De deux, il faut comprendre que les militaires qui prennent déjà le grade de adjudant en allant jusqu'au général ne sont plus ces militaires dans les années 1900 qui ont fait la première guerre mondiale parce qu'ils ont tué beaucoup de personnes, on leur a donné le grade de général. Ce sont des intellectuels parfaits et qui comprennent le jeu qu'ils font. Donc, qui ne viennent pas nous dire que voilà, ce sont des militaires, tout comme ce sont des tarés et que ce sont des civils qui sont intelligents. Non.
qu'ils comprennent cela.
D'accord. Merci. Allô? Allô? Allô, il est parti. 22-21-33-74-22-20-19-68. Allô?
Oui, bonjour, chef.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Sylvain.
D'accord, on vous écoute.
Oui, effectivement, il faut que quand ces messieurs se retrouvent, ils se disent la vérité. Effectivement, les autorités ne sont pas parties la dernière fois au Gabon pour féliciter Ali Bongo pour son investiture. L'autre jour-là, on avait eu un message, ça avait eu un message qu'ils sont partis sur l'invitation pour une fête de leur parti. Donc, c'est pas pour aller applaudir Ali Bongo. D'accord. Il faut que ces messieurs, quand ils se retrouvent, ils se disent la vérité. Ali Bongo n'est pas le seul Gabonais pour diriger le Gabon à vie.
D'accord.
On a dû lui trouver, construire une place des Invalides. Là, il va se reposer là-bas.
D'accord. Merci à vous. Allô?
Allô?
Bonjour. Oui, bonjour.
Oui.
C'est monsieur?
C'est Canal FM.
Oui, vous êtes en direct.
Ah, vous êtes monsieur Adangwa Dupia de Oui.
D'accord, on vous écoute.
Moi, je n'ai plus beaucoup tant de choses à dire. Hein. Je pense que c'est Dieu qui a soulevé sa main. Dieu est en train de soulever sa main sur les pays francophones. Ce que nous tendons vers le despotisme colonial. Hein? Nous tendons vers le despotisme colonial hein, des pays pour la libération des pays francophones. C'est la fin du despotisme. C'est la fin du despotisme colonial des pays francophones. Il faut que les colons, la France nous libère, libère les pays francophones pour que nous évoluions.
D'accord.
C'est Dieu qui est en train de soulever sa main.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Ah, bonjour. C'est monsieur?
Mohamed.
Monsieur Mohamed, on vous écoute. On vous écoute.
Bon, moi, je vais revenir en arrière. Le lundi, bien mardi, vous avez parlé du Nam là. Je peux aller?
Oui, rapidement.
Allez-y
fait, rapidement.
Tous les produits, même jusqu'à 1500 même. C'est quelques heures seulement. On souffre amèrement. Mais on nous lève de l'argent. On nous prélève de l'argent. On ne comprend rien.
D'accord.
Pourquoi?
D'accord.
Hein? C'est très mauvais. La pharmacie qui nous entoure, il y a 8 pharmacies, il n'y a que 3 seulement qui fonctionnent. Ils sont en Inam, tout était sur l'Inam. C'est seulement 3 qui fonctionnent maintenant. C'est pas bien.
D'accord. Merci, monsieur Mohamed. Allô? Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. C'est monsieur?
Monsieur Assongbo.
Monsieur Assongbo.
Je salue le plateau.
Oui, bonjour.
Ma question à monsieur Tchadja. Est-ce qu'on peut réparer le mal par le mal? Pourquoi cette question? Maintenant, nous avons pris la solution pour la mauvaise gouvernance en Afrique. Comme coup d'État, la solution. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger qui est en train de gâter l'Afrique? En ce sens que les coups d'État sont soutenus par les puissances occidentales. Le coup d'État qui s'est passé au Gabon, là, c'est la France qui est derrière ça. Selon mes analyses. Merci, bonne émission.
D'accord, merci à vous. Allô? Allô? Diminuez allô? Le volume de votre poste récepteur.
Oui, allô?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Monsieur Sokassi de Savoie.
D'accord, on vous écoute.
Je salue le plateau. Je voudrais répondre par rapport au sujet du Gabon.
Allez-y.
Pour dire que ce qui a été fait au Gabon hier, c'est ça même que les Africains vont applaudir. Quand les présidents qui sont au pouvoir depuis des années, depuis plus d'une décennie, veulent encore faire hold-up des élections, c'est ça même que les militaires doivent faire. Ils ne doivent pas laisser les présidents là prêter serment, faire quoi, avant de les destituer après, comme ça se passe au Niger. Donc c'est pour dire que quand nous disons toujours que ça nous serve de leçon, qui même nous voulons dire que la personne même écoute et prenne les dispositions. Merci, bonne émission.
Merci à vous. Allô? Allô, il est parti. 22, 20, 19, 68, 98, 87, 78, 37. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Oui, ma voix.
D'accord, on vous écoute.
Ali Bongo, il n'a qu'à se reposer. Il est malade. Sinon, ce n'est pas la, au civil seulement que les forces de l'ordre doivent ordonner de faire chose. On les appelle forces de l'ordre. Ils n'ont qu'à mettre de l'ordre partout. On nous dit qu'ils sont pires. Mais est-ce que ça veut dire que là où il y avait des coups d'État, ils sont pires comment? Les civils même ont fait plus de 3 mandats, 4 mandats. Est-ce que c'est un militaire qui a pris? Bon, je ne comprends pas pourquoi on dit que les soldats sont pires. Or, si on voit dans certains pays, ils sont à l'OTR, ils sont des préfets, ils sont partout. C'est seulement la présidence que les forces de l'armée ne prend pas. Ils sont pires comment? Est-ce qu'ils ne sont pas nés des hommes et des femmes? Merci.
Ok, merci à vous. Allô? Allô? Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Johannes, on vous écoute.
Moi, c'est juste pour dire les enjeux l'ont dit, surtout du côté de l'analyse de Ambroise. En fait, le coup d'état de. C'est un coup d'état bizarre. C'est très bizarre comme coup d'état. Et ce n'est pas pour rien même que Ali Bongo a préféré s'exprimer en anglais. C'est anecdotique. Parce que le monsieur a compris que ce n'est plus la peine de s'adresser aux Français. Parce qu'il sait très bien que la manière, le niveau auquel les Français sont impliqués dans le pouvoir gabonais, ce coup d'état ne pouvait se passer sans que le plus haut niveau français soit au courant. Et maintenant, ce qui m'a fait rire, c'est que le monsieur a passé son message à travers au monde entier. C'est grâce à Internet qui a été rétabli. L'Internet que lui-même il a coupé. C'est quand ça a été rétabli qu'il trouve la peine de vouloir appeler le monde entier en disant make noise, make noise. Voilà. Bon, et pour finir.
Oui, pour finir, oui.
Vraiment, je salue les militaires au Niger et surtout au Burkina. Mais je ne souhaite pas un coup d'état militaire chez moi au Togo. Moi, franchement, nous sommes dans un régime, je ne sais pas, dictatorial depuis des années. Mais que les militaires prennent, c'est-à-dire la manière dont les militaires se comportent déjà contre nous dans ce pays, je me dis si c'est ces militaires qui vont un jour prendre le pouvoir au Togo, on ne le souhaite pas. Parce que les militaires togolais sont réellement différents de ce qu'on voit dans d'autres pays.
D'accord, merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. Allô? Allô? Allô, 22, 21, 33, 74. Allô, le dernier auditeur. Allô, oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Fousseni.
Oui, c'est monsieur
Patrick.
Ah, monsieur Patrick. Allez-y, voilà. Allez-y.
Monsieur Fousseni.
Diminuez le volume de votre poste récepteur.
D'accord. Alors, je voulais que vous pensiez au moins, comme moi, si je peux m'exprimer ainsi. Dans ce pays où il y a eu les coups d'État, là, s'il vous plaît, entre nous, au Burkina, en Guinée, tout comme au Mali, là, dites-moi, à part le sentiment anti-français qui prévaut, bon, je peux dire que c'est le Mali qui a commencé, à peu près ça doit faire 8 mois ou 9 mois, est-ce qu'il y a un changement véritablement par là dans la vie des citoyens? Ça, c'est la question que moi-même je me pose. C'est vrai, on veut un changement. Ce coup d'État-là profite-t-il à qui? À la population, aux militaires ou au président déchu? Voilà les questions que moi, je me pose. C'est comme tout comme on dit, faut pas vendre le sorcier pour à lui place du voleur quelque chose comme ça. C'est-à-dire, quand c'est vrai, on peut quand même vouloir un changement. Mais ce changement-là, il va falloir que ça intervienne dans l'intérêt suprême de la nation. C'est là où je voulais en venir. Bonne D'accord. émission.
Merci à vous. Donc, c'est le dernier auditeur de ce jour. Alors, nous revenons en studio. Michel Chadia, on vous a interpellé à deux reprises, je crois.
Oui, moi, je pense que, encore une fois, nous le disons tout le temps ici. Peut-être l'auditeur qui s'est adressé à moi ne me suit pas tout le temps que je viens ici. En principe, personne n'est contre un coup d'État, hein, parce que J'ai toujours dit, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème.
Personne n'est pour un coup d'État.
Oui, ben, certains, quand ils parlent, c'est l'impression qu'ils pensent que dans nos raisonnements, là, c'est que nous applaudissons un coup d'État.
D'accord.
C'est, un coup d'État, c'est une bonne réponse à une mauvaise réponse à un vrai problème. C'est, je l'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas. Mais quand ça arrive, puisque ceux qui font là, nous, on n'est pas avec eux. Quand c'est arrivé, nous on constate seulement. Vous voyez, donc nous faisons les analyses en tenant compte. Même s'il dit que c'est pourquoi je depuis hier que ceux qui disent que bon Paris est derrière ce coup d'État. Moi, de toutes les façons, Ali n'est plus au pouvoir. Mais nous avons vu au Burkina, Damiba est venu et il a amené Blaise Compaoré, il est allé voir Alassane Ouattara. On a vu le sort qui lui a été réservé après. Donc, c'est un processus. Le général, là, s'il est à la solde des Français, les Gabonais aviseront un jour ou l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, nous sommes en allant, comme on le dit généralement. Donc, c'est ce que je voulais dire à la personne. Quoi.
D'accord. Ambroise,
oui,
en une minute.
Au dernier intervenant, moi, je veux juste le dire que nous, il y a des éléments de langage qui ne nous trompent pas. Il ne faut pas qu'il vienne nous embrouiller ici. Ça, c'est pour son compte. Parce que quand on parle de coup d'État, personne n'est pour le coup d'État ici. Mais il y a des coups d'État salvateurs. Je m'arrête là. Mais je dis que pour le cas Gabon, pour le cas du Gabon, par exemple, ça peut servir de leçon aux autres. Moi, j'insiste sur cet aspect de la chose. Je ne sais pas la joie qui a animé les Togolais. Chaque fois qu'il y a coup d'État ailleurs, les gens sont animés de vouloir. Tu as remarqué ça? Posons-nous la question, pourquoi les gens sont en joie au Togo quand ça se passe ailleurs? C'est juste ça.
D'accord, merci. Magla, réaction?
Non, je crois que ce que nous faisons ici...
Mais le micro ne marche pas encore. Oui. Ben, allez-y.
Oui, je crois que ce que nous faisons ici, nous n'avons pas la science infuse. Nous participons au débat et chacun pouvait faire sa lecture à lui. Et nous essayons d'apprécier la situation en rapport avec les forces et éléments en présence. Et Ambroise l'a dit aujourd'hui, c'est vrai. Et puis on l'a toujours dit depuis le début de l'émission. On regrette ce qui se passe sur le continent. Les coups d'État, aucun intellectuel, aucun démocrate ne saura accepter un coup d'État. Mais sauf que dans le cas d'espèce, la situation se produit. On fait comment? On prend acte, mais on analyse et on propose.
Voilà.
Et nous disons que par rapport à un certain nombre d'éléments, il va falloir qu'on procède à un changement de paradigme. Sinon, on risque de continuer pas subir des coups d'État sur le continent et ça n'honore pas le continent. Mais ça ne peut pas être des discours comme cela. Ça, il faut que ça soit des actes.
D'accord.
Et pour que ça soit des actes, il faudrait que ça vienne de nous-mêmes. Et nous, journalistes, nous faisons partie de ces intellectuels-là qui peut-être vont pouvoir aider ce continent à sortir de ce bourbier. Et c'est ce que nous essayons humblement de faire.
D'accord. Préparez vos cartons. Le temps de reprendre notre invité. Alors, Monsieur Marcelin Mazama Aleman, vous êtes chef service commercial à Cap Togo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez un mot à l'endroit de vos clients?
Oui, j'ai un mot à l'endroit de nos clients. Et avant ça, je vais aller rapidement répondre à une question de Michel Chadia. Il avait posé une question que je n'avais pas répondu concernant. Il dit que 5 mois après le lancement de Cap Tourist, et quelle est la réaction de la clientèle face à ce nouveau produit? Et je tiens à vous dire que 2 mois après le lancement de ce nouveau produit, sans vous mentir, on était tombé en rupture.
D'accord.
Oui, on était tombé en rupture. Donc cela montre l'engouement tout autour de ce nouveau produit. Les gens ont vraiment apprécié la qualité et la performance de cette huile. Donc c'est la raison pour laquelle la direction générale de Cap Togo a décidé aujourd'hui d'accentuer la communication tout autour de ce produit. Donc si je suis dans ce studio ce matin, c'est pour dire à nos clients et les clients potentiels, ceux qui doutent, hésitent sur ces huiles, pour leur dire que de ne pas hésiter et de s'approcher de Cap Togo parce que nous sommes dans l'assistance conseil, on peut leur conseiller. Ceux qui ont des voitures et qui ont des pannes répétitives, vous pouvez venir vous voir, on peut vous conseiller la bonne huile. Et Cap Tourist est la bonne huile qui peut vous arranger. Quand vous prenez ces produits, les huiles-là, nous avons savé que le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Les prix que nous avons concernant les huiles synthétiques, il suffit de comparer ces huiles avec les huiles de certains de nos confrères sur le marché. Vous n'allez pas trouver ces prix.
D'accord.
Donc,
merci, monsieur.
La direction Cap Togo est ouverte à tous nos clients pour d'éventuelles informations.
D'accord. Merci, monsieur Marcelin Mazama Aleman, chef service commercial à Cap Togo. Alors, rapidement, vos cartons. Je commence par Michel Tchadja.
Je n'ai pas de carton, mais je voulais lancer un appel à ceux qui ouvrent les chantiers et ne ferment pas les puisards ou les puits dans tous les quartiers, je pense que si vous avez un chantier à côté de vous et que on n'a pas fermé les puits ou les puits, vous pouvez vous plaindre à la mairie.
D'accord.
Ou peut-être nous contacter parce que nous voulons dénoncer ce genre de d'attitude. Ce n'est pas au gouvernement de venir fermer les puissards dans les quartiers pour des gens. D'accord. Il faut que nous prenions conscience pour éviter, parce qu'il y a des enfants qui tombent dans ces puissards, dans ces puits, qui meurent. Il y a même des personnes adultes qui tombent dans ces puits, dans ces puissards-là.
D'accord, merci Michel. Ambrace Mondio.
Oui, carton. Moi, je n'ai pas de carton, mais j'envoie juste ce message.
Rapidement.
Ce message à ceux qui nous gouvernent ici au Togo, de voir l'actualité ailleurs et de changer de paradigme pour que le Togo soit en paix.
D'accord, merci. Magloire Teko.
Je salue.
Oui.
Avec qui je suis en paroisse.
Oui, d'accord.
Non, moi, j'ai un carton vert que j'adresse au ministre Yac et son ministère pour la dextérité avec laquelle il mène l'opération Feu Tricolore, parce que n'oublions pas, selon tous les rapports, 60 à 70% des accidents sont causés par les engins à deux roues, les motos. Et donc, s'il faille nous forcer nous-mêmes à sauver nos vies, je crois que feu vert, ils n'ont qu'à continuer. On devrait tendre vers la passée. Sensibilisation, oui, d'accord, mais après, il faut passer à la répression.
À la répression, d'accord. Ouais. Merci, Magloire Teko Kinvi du journal Flambeau des Démocrates, Ambroise Kondjo du journal des Guardians, Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Giro Akoutia. Je suis Fousseni Saïbou. Rendez-vous demain à 11h avec Pascal Lossou.